Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À quoi servent les casques bleus en Afrique? Voilà la question posée dimanche à Addis Abeba par le président guinéen Alpha Condé lors de son dernier discours de président en exercice de l'Union africaine. Deux jours plus tôt à Kinshasa, c'est Joseph Kabila qui s'est montré très critique à l'égard de la mission des Nations Unies dans son pays. Je vous rappelle qu'au cours de sa première conférence de presse en 6 ans, le président a eu des mots très durs contre la MONUSCO, une mission qu'il accuse de n'avoir neutralisé aucun groupe armé en presque 20 ans de présence. Même les opérations en cours contre les terroristes de l'ADF sont conduites par les forces armées congolaises, a souligné le chef de l'État. Alors faut-il remettre en cause l'utilité des casques bleus? En tout cas, hier sur notre antenne, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a reconnu qu'au Congo, au Mali, en Centrafrique et au Soudan du Sud, les forces de l'ONU n'étaient pas suffisamment bien préparées et équipées. Dans ces pays, a-t-il dit, nous avons une multitude de groupes armée, une situation sans solution politique. Du coup, Antonio Guterres préconise de mieux définir les mandats et de renforcer les capacités des casques bleus, aussi bien pour protéger les civils que pour se défendre eux-mêmes. Car régulièrement, nous vous en parlons sur notre antenne, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, les forces des Nations Unies sont la cible d'attaque. La République démocratique du Congo n'est pas non plus épargnée. On l'a vu le mois dernier dans le nord du pays. On va donc parler de cette efficacité des casques bleus durant les 20 prochaines minutes. Quel avenir pour les opérations de maintien de la paix en Afrique? 33 9 693 693 70. Des dizaines et des dizaines de réactions au standard et sur la page Facebook de l'émission concernant les réseaux sociaux. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, nous vous donnons la parole. Bonjour Benjamin.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous êtes à Bangui, en Centrafrique, et vous disiez au Standard être tout à fait d'accord avec le président Alpha Condé lorsqu'il s'interroge sur la pertinence des casques bleus.
Oui, monsieur Juan Gomez, vous savez bien que moi je suis en Centrafrique, je suis centrafricain, et il y a une forte mission des Nations Unies ici en Centrafrique, de 12 000 hommes, mais dont on ne voit pas l'efficacité sur le terrain. L'exemple le plus récent est la situation à Pawa, où les casques bleus étaient à l'intérieur de la ville de Pawa, mais tout aux alentours, les gens se sont fait massacrer, et les casques bleus ne sont même pas intervenus pour essayer de sécuriser la population civile. Donc nous, ici, en Centrafrique, on dit que les casques bleus sont là pour faire du tourisme. Mmh. Et c'est normal. Nous, on pense que c'est normal. Parce qu'un Bangladais qui vient ici en Centrafrique, il a quel intérêt à aller mourir pour les Africains. Donc moi, je pense que beaucoup plus, ce sont les chefs d'État africains qui doivent prendre leur responsabilité et essayer de mettre une force de réaction rapide afin d'intervenir dans les conflits africains.
Alors vous dites, excusez-moi, Benjamin, vous dites une chose très importante, c'est-à-dire que vous remettez en cause la composition même de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Vous disiez, en prenant un exemple, vous auriez pu en prendre un autre, mais en parlant des Bangladais, un Bangladais va-t-il risquer sa vie pour sauver un Centrafricain? C'est la question que vous vous posez. Donc il faudrait quoi? Que ces forces tunisiennes sur le continent africain soient essentiellement composées de soldats africains?
Bah oui, naturellement, monsieur, parce que vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, les gens qui viennent des contrées très lointaines, qui n'ont aucune connaissance du terrain, qui n'ont aucune, je peux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les lie avec ces peuples dont ils sont venus pour sécuriser. Ça pose énormément de problèmes. Et l'autre problème aussi, c'est la manière dont on déploie les casques bleus sur le terrain. Vous prenez l'exemple des troupes mauritaniennes qui sont déployées là où il y a les extractions de diamants, tout en sachant que tous les États-Unis savent qu'il y a une forte économie mauritanienne ici qui est spécialisée dans l'extraction de diamants. Donc ça pose problème. Et ce qui fait que quand ces troupes se retrouvent dans les zones, ils sont obligés de protéger leurs ressortissants qui sont là, et ils sont de connivence même parfois avec les chefs rebelles. Donc je vous dis que même les casques bleus en Afrique, sont totalement décliés et on ne voit pas leur efficacité.
Alors ça, c'est une accusation qui revient souvent hein, sur la page Facebook de l'émission et à chaque fois que nous avons eu l'occasion de parler des casques bleus en Afrique, cette accusation, un, de connivence entre certains soldats des Nations Unies et des groupes rebelles, et ce qui revient souvent également dans vos propos et dans vos témoignages, c'est que certains casques bleus profiteraient de leur présence sur le terrain pour faire du commerce illégal de certaines richesses qu'on trouve dans les sous-sols des pays concernés. Vous parliez du diamant s'agissant de la Centrafrique. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Benjamin de cette réaction. Fofana nous dit sur Facebook, les casques bleus se font remarquer par leur inefficacité. La preuve, depuis qu'ils sont déployés au Mali, la mission onusienne est incapable de mettre un terme aux attaques terroristes au nord du Mali. Pire, dit-il, la MINUSCA est elle-même souvent victime des attaques terroristes faisant des morts dans ses rangs. Je parlais justement des attaques ciblées visant les casques bleus sur le continent africain. Elles sont de plus en plus nombreuses. Au standard, on va parler justement du Mali. Qui avons-nous au standard? On a Issouf, bonjour.
Et bonjour à vous, Anne, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes assez critique à l'égard des casques bleus déployés dans votre pays.
Et évidemment, Juan, avant, et permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes et qui ont lieu lors de ces dernières attaques également au nord et au centre du pays. Et concernant la mission des casques bleus pour l'Afrique, à l'initiative, effectivement, elle est bonne parce que c'est pour le maintien de la paix et une force de tampon, soit d'interposition également. Mais à l'ère où nous sommes aujourd'hui, nous pensons que la solution doit être locale, sinon sous-régionale. Je rappelle qu'en 2012, le président Amadou Toumani Touré n'avait de cesse à dire que cette guerre, elle est transnationale. Donc, il faut les forces conjointes des pays concernés aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, de passage, je salue également le président Ibrahim Boubacar Keïta pour son dynamisme, pour la mise en place également et d'une force de 5 au Sahel.
Alors, justement, Issouf, vous dites aujourd'hui, concernant votre pays, il est plus pertinent d'avoir une force conjointe comme celle du G5 Sahel qu'une mission des Nations Unies.
Et bien sûr, parce que je rappelle que ce sont ces militaires qui connaissent également nos frontières. Ce sont ces militaires qui viennent également de ces différents pays-là. Je rappelle que le Tchad, rien que le Tchad seulement avec sa troupe, maîtrise beaucoup la guerre face à des groupes armés qui sévissent également incessamment dans le Nord aujourd'hui. Et ce que nous recommandons à la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, à l'Union Européenne, c'est d'équiper cette force, c'est de les former, c'est de passer un transfert de compétences à cette nouvelle force également sous-régionale pour qu'elle puisse mener à bien et cette lutte aujourd'hui.
Parce et c'est un peu ce que disait hier Antonio Guterres au micro de Christophe Bobouvier, le secrétaire général des Nations Unies disait, voilà, nous avons deux types de situations, celles qui requièrent des opérations d'imposition de la paix et celles dont la mission première est de lutter contre le terrorisme. Eh bien, s'agissant de la lutte contre le terrorisme, il a été très clair, on n'a pas besoin de casque bleu. Là, on a plutôt besoin de forces, notamment des forces africaines. Il faut des forces africaines avec un mandat clair du Conseil de sécurité de l'ONU et des fonds, évidemment, pour garantir leur action. Autant dire qu'Antonio Guterres soutient, évidemment, à 300% la mise en œuvre et la mise en place de cette force conjointe du G5 Sahel. Issouf, je vous interromps, on a beaucoup de réactions qui nous arrivent de la République démocratique du Congo, notamment après les critiques formulées par le président Joseph Kabila vendredi dernier en conférence de presse. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Même les opérations en cours contre les terroristes de l'ADF sont conduites par les forces armées congolaises. Voilà ce qu'a souligné Joseph Kabila vendredi dernier en conférence de presse. Il a d'ailleurs interpellé les casques bleus en disant « Donnez-moi le nom d'un groupe armé que vous avez réussi à neutraliser ces 20 dernières années ». Est-ce que vous partagez les critiques de votre président, Olivier ?
Je pense que le président Kabila, après 17 années au pouvoir, devrait être un peu plus modeste dans ses propos parce que il revient de sa responsabilité et de celle de son gouvernement de former, d'équiper l'armée et la police justement pour qu'on n'ait plus besoin des casques bleus de la MONUSCO pour venir à bout des groupes armés qui sévissent à l'est de notre pays. Donc,
mais excusez-moi, Olivier, il y a tout de même une part de vérité dans les propos de Joseph Kabila. Certes, il a oublié de signaler que grâce à la brigade d'intervention des casques bleus, le mouvement rebelle M23 a été affaibli, il a été même mis hors d'état de nuire. Mais voilà, au-delà du M23, on ne peut pas citer d'autres groupes rebelles anéantis par les casques bleus.
Oui, je veux bien. C'est vrai qu'il y a des faiblesses dans l'opérationnalité des casques bleus à l'est du pays, parce que finalement, nous sommes arrivés à une période où il y avait des dizaines de groupes armés à l'est du pays. Mais après 17 ans au pouvoir, il faut quand même qu'il se pose lui-même des questions. Pourquoi ces groupes d'armées continuent à sévir? Il n'a toujours pas été capable d'organiser l'armée pour que l'armée puisse venir à bout de ces groupes armés. C'est la mission de l'armée. Et ça revient de sa responsabilité. Donc je pense que...
Donc ça veut dire que la MONUSCO est un bouc émissaire, à vous entendre.
C'est un bouc émissaire. Mmh. Ce sont des propos qui ne sont pas responsables.
Alors, de la part d'un chef de l'État. Restez en ligne, Olivier. Guy nous appelle de Marseille et vous allez pouvoir dialoguer avec lui si vous le souhaitez. Bonjour Guy.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous interpellez également sur la MONUSCO.
Oui, ben justement, moi je suis tout à fait d'accord avec mon frère. Sauf que, vous savez, ça fait 20 ans qu'ils sont à RDC. Et le nombre de morts, je ne peux même pas vous dire. Il se passe des choses horribles au Congo, horribles. Et M. Kabila, aujourd'hui, oui, d'accord, il vient parler de la MONUSCO, mais il était où depuis? Pour moi, je pense que la MONUSCO fait partie du système qui est instauré à RDC aujourd'hui, c'est-à-dire le système de pillage des matières. Point barre. Je vois pas d'autres trucs.
Pour vous, ce serait la mission première des casques bleus.
Pour moi, ça serait la mission première, parce que quand on tue et on viole devant leurs yeux, ils font que constater des dégâts et filmer et prendre des photos. Donc, je sais pas, parce que vous êtes au courant quand même de ce qui s'est passé à RDC, quoi. Vous êtes au courant.
Non, mais bien sûr, Guy. Moi, je suis là pour vous donner la parole. Je n'ai pas à prendre position. Le débat est intéressant. Il interpelle plus d'un auditeur et plus d'un citoyen sur le continent africain. Vous êtes nombreux, d'ailleurs, à souhaiter prendre la parole. Donc, il faudrait quoi, Guy? Il faudrait, comme le réclament les autorités congolaises, modifier le mandat de la MONUSCO, voire même peut-être à court terme, mettre fin à cette mission?
Oui, pour moi, il va falloir mettre fin à cette mission, c'est-à-dire la MONUSCO doit quitter la RDC à l'immédiat, et puis ces gouvernements puent par derrière. Et attention, on a aussi l'opposition d'accompagnement, parce que c'est fini les théâtres en RDC, il y a trop de morts, c'est fini. Donc ils doivent tous partir et laisser au peuple congolais de gérer leur pays.
Bon, en tout cas, la MONUSCO, a rappelé le secrétaire général adjoint de l'ONU au micro de Christophe Boisbouvier, Jean-Pierre Lacroix, qui est chargé des opérations de maintien de la paix. Il a dit encore une fois ce matin, la MONUSCO est là pour soutenir le peuple congolais, pour arriver à une paix durable. Josier, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes également à Kinshasa et vous souhaitiez revenir sur les critiques de Joseph Kabila s'agissant de la MONUSCO.
Oui, Juan. Premièrement, j'aimerais rendre hommage à tous les citoyens décédés durant les actes de barbarie de nos forces de l'ordre durant le 31 décembre et le 21 mars. Alors, par rapport au point de presse de mon président, il faut savoir que le soutien de la MONUSCO a été énorme durant toutes les périodes de conflit sur le plan logistique et sur le plan d'échange d'informations, Juan. Il faut savoir que la logistique de la MONUSCO est de loin plus perfectionnée que celle de nos forces armées. Et sans la MONUSCO, nos forces de l'ordre n'allaient pas pouvoir éradiquer toutes les forces armées.
Ouais. Donc vous dites que les casques bleus sont mieux équipés que les forces armées, les forces de sécurité congolaises. En même temps, Jean-Pierre Lacroix reconnaissait lui aussi que, au regard de l'environnement sécuritaire dans votre pays, qui était un environnement de plus en plus difficile, il fallait une force plus réactive, plus flexible, c'est-à-dire qu'il fallait donner peut-être davantage de moyens et de souplesse à la MONUSCO. Mais malgré cela, vous êtes satisfait, vous, de l'action des casques bleus?
Oui, satisfait, mais en partie. Mais il ne faut pas oublier qu'il faudra mener certaines réformes dans le but de pouvoir perfectionner encore plus l'action de la MONUSCO sur le sol congolais. Je vais vous présenter quelques chiffres, Juan, s'il te plaît.
Deux chiffres,
Monsieur
deux
Kabila,
chiffres.
Il parle... Oui, Monsieur Kabila, il parle, il dit que la MONUSCO n'a pas pu éradiquer les forces armées. Mais ils oublient que la contribution de la MONUSCO lors des élections qui ont été organisées en 2006 et en 2011 ont été énormes. Oui. Sans l'appui logistique et financier de la MONUSCO en 2006,
bien sûr.
Je pense pas si.
Mais je vois où vous voulez en venir, Josué. C'est-à-dire que effectivement, sur le côté militaire et sur le terrain, bon, peut-être que le bilan est contestable, mais sur un plan de logistique, d'aide et d'accompagnement sur le processus électoral, vous dites là, on ne peut que saluer la présence de la mission onusienne. Merci, Josué. Je vous interromps. Je regarde la pendule et il y a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent prendre la parole. Je crois que nous avons Kofi d'Abidjan. Bonjour, Kofi.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Alors, quel bilan dressez-vous de la présence des casques bleus en Afrique?
Si j'entends les uns et les autres, on a tendance à dire pour certains que c'est un mal. Alors moi je dirais, c'est un mal nécessaire. Nécessaire en ce sens que il faut, dans tous les conflits, à un certain moment, évidemment, interposer une force d'interposition, permettre une négociation et permettre aux résultats des négociations de s'imposer. Mmh. Qui peut le faire aujourd'hui au monde en dehors des forces de l'ONU? Il est vrai qu'une fois que les conditions d'une interposition se mettent en place, la situation peut évoluer. Et dans ce sens-là, la force d'interposition devrait pouvoir avoir la possibilité de se muer en force d'imposition de la paix.
Ouais. Mais c'est un peu ce qui se passe au Mali. Hein. Les casques bleus sont arrivés au Mali dans un contexte assez précis, assez particulier. Et puis, peu à peu, la situation a évolué l'environnement est devenu de plus en plus terroriste. Et on a bien vu que les casques bleus n'étaient pas préparés à faire face à une guerre asymétrique. Donc, ce que réclame d'ailleurs le grand patron de la MINUSMA au Mali, c'est de modifier le mandat de la MINUSMA pour lui permettre justement de s'adapter à ce nouveau contexte. Donatien, vous êtes à Bangui en Centrafrique. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons sur les casques bleus.
Oui, Juan, aujourd'hui, sur la MINUSCA, c'est l'exemple que je connais le mieux parce que c'est chez moi à Bangui.
Oui.
Alors, le bilan, c'est qu'on a plus de 10 000 hommes qui sont là, équipés, et qui ont continué de tuer, piller, brûler, violer. Et ils sont là, même les sapeurs-pompiers, je pense que les sapeurs-pompiers font mieux. Alors on se demande, quelles sont les attributions, quelles sont la mission qui est dévouée à la MINUSCA aujourd'hui? Mm-hmm. C'est cette interrogation-là. Je pense qu'une armée, c'est quelqu'un qui est formé pour défendre un territoire, défendre la population, défendre les biens des personnes. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on tue, on pille, il vient seulement constater.
Ouais. C'est ce que vous êtes nombreux à nous dire exactement la même chose. Il y a Mazou sur Facebook qui s'interroge. Où sont les casques bleus lorsque les civils sont tués? Daouda, les casques bleus ne font que du tourisme et parfois même du commerce. Beaucoup de moyens sont déployés dans ces opérations, mais aucun résultat n'est constaté, nous dit Alassane. Aucun résultat, notamment au Mali, où chaque jour on dénombre des morts côté civil et militaire. John, qui nous écrit de RDC, pense que la mission des Nations Unies n'est qu'un organe chargé d'imposer l'impérialisme de l'Occident. Voilà autant de critiques formulées à l'encontre des casques bleus. Le débat est loin d'être clos, on aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce débat a été lancé vendredi dernier par le président Kabila et dimanche par le président guinéen Alpha Condé à la tribune de l'Union africaine. Demain, on parlera justement de l'Union africaine et surtout de sa réforme. Une réforme visant notamment à l'autofinancement de l'organisation. Vous savez qu'actuellement, 70 à 80% de son budget provient de donateurs étrangers. Il en va donc de l'indépendance de l'Union africaine, de sa souveraineté. Du coup, pour se financer, il est prévu de taxer des produits sur le continent africain, des produits importés. Mais visiblement, la mesure est loin de faire l'unanimité parmi les chefs d'État. Nous en parlerons demain matin.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, qui vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
À suivre, Priorité Santé. Bonjour Caroline Paré.